le monde aujourd'hui. Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du jeudi 6 mars 2025. Sommet extraordinaire de l'Union européenne sur l'Ukraine face au désengagement américain. Ici aux États-Unis, le 10e sommet Powering Africa Explore, l'avenir du partenariat énergétique. Les États-Unis quittent le plan de transition énergétique en Afrique du Sud selon Pretoria. Au Soudan, le Conseil de sécurité de l'ONU met en garde contre la création d'un gouvernement rival. À Bukavu, dans l'est de la RDC, le mois sacré du Ramadan est marqué cette année par des prières à domicile et une rupture du jeûne moins festive après la prise de la ville par le M23 à la mi-février.
Beaucoup de musulmans se disent rester chez soi, prier cette prière là-bas chez soi. Donc c'est un peu compliqué par rapport à d'autres mois du Ramadan.
Reportage à suivre dans la partie magazine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Sommet extraordinaire sur l'Ukraine à Bruxelles. Cette réunion des dirigeants européens vise à renforcer la défense européenne et à soutenir l'Ukraine face à la Russie après le gel de l'aide militaire américaine. Le point avec Eric Manirakiza.
La présidente de la Commission européenne a averti que l'Europe était confrontée à un danger clair et immédiat et devait se protéger tout en permettant à l'Ukraine de défendre sa souveraineté et d'œuvrer pour une paix juste et durable. De son côté, le chancelier allemand Olaf Scholz a rejeté toute idée de paix imposée à l'Ukraine, rappelant l'importance d'une paix équitable garantissant l'indépendance du pays. Pendant ce temps, au Royaume-Uni, des discussions se poursuivent avec une vingtaine de pays pour envisager une coalition des volontaires destinée à contribuer à un éventuel maintien de la paix en Ukraine. Pour sa part, le président ukrainien a remercié les Européens pour leur soutien, se félicitant que les Ukrainiens ne soient pas seuls face à la Russie. Le président français Emmanuel Macron a annoncé une réunion des chefs d'état-major européens prévue le 11 mars à Paris, pour discuter d'un possible déploiement de forces européennes en Ukraine une fois la paix signée. Cependant, la Russie s'oppose fermement à cette idée, Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, qualifiant ces discussions d'ouvertement hostile envers Moscou. De son côté, le président américain Donald Trump continue d'appeler à un cessez-le-feu immédiat tout en gelant l'aide militaire américaine à l'Ukraine.
L'ONU a débloqué ce jeudi 110 millions de dollars de son fonds d'aide d'urgence pour compenser la baisse précipitée des montants consacrés à l'aide humanitaire dans le monde, selon un communiqué. Ces fonds d'urgence doivent renforcer l'assistance vitale dans 10 des crises les plus sous-financées et négligées au monde, en Afrique, en Asie et en Amérique latine, souligne le communiqué. Un tiers du montant total ira au Soudan, qui connaît actuellement la pire crise humanitaire dans le monde, ainsi qu'au Tchad, voisin qui accueille d'innombrables réfugiés ayant fui les combats chez le voisin soudanais. Ici à Washington DC, s'est ouvert aujourd'hui le 10e sommet Powering Africa qui met à l'honneur le partenariat énergétique entre les États-Unis et l'Afrique. Les précisions avec Dilly Dico.
Le sommet Powering Africa réunit pour 2 jours des membres du gouvernement américain, des investisseurs institutionnels, des financiers privés, des fournisseurs de services et de technologies d'Amérique du Nord, avec des ministres et représentants de gouvernements africains. L'objectif est de poursuivre les discussions sur l'avenir du partenariat énergétique entre les États-Unis et l'Afrique, le thème central de cette édition. Le sommet annonce un programme diversifié et interactif qui se concentrera sur les flux de capitaux, la transition énergétique et l'accélération des projets liés au secteur de l'énergie sur le continent. Les panélistes sont repartis en fonction des 4 régions du continent avec un accent sur la coopération énergétique. Cette année, les représentants africains des acteurs du développement énergétique dans leur pays sont issus du Togo, du Bénin, de la Guinée, du Cameroun et de la RDC, mais aussi de nombreux pays anglophones du continent. L'invité d'honneur, le ministre américain de l'énergie, Chris Wright, doit prendre part au sommet demain, dernier jour de l'événement, pour s'adresser aux participants.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Soudan a porté plainte aujourd'hui contre les Émirats arabes unis devant la Cour internationale de justice, les accusant de soutenir les forces paramilitaires de soutien rapide et de violer la Convention sur le génocide lors d'attaques au Darfour. Les Émirats contestent ces accusations et demandent le rejet de l'affaire jugée sans fondement. Toujours à propos du Soudan, le Conseil de sécurité de l'ONU a fait état de sa profonde inquiétude après la signature en février par les paramilitaires soudanais d'une charte en vue de former un gouvernement parallèle. Le conflit oppose depuis avril 2023 l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide. Les précisions de Yacouba Ouedraogo.
Les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur profonde inquiétude concernant la signature d'une charte visant à établir une autorité gouvernementale parallèle au Soudan. C'est la déclaration faite par les membres du Conseil dans un communiqué. Ils ont averti qu'une telle initiative risquerait d'exacerber le conflit en cours au Soudan, de fragmenter le pays et d'aggraver une situation humanitaire déjà catastrophique. Ils ont aussi exhorté les belligérants à cesser immédiatement les hostilités et à s'engager dans un dialogue politique et des efforts diplomatiques en vue d'un cessez-le-feu durable. La guerre a morcelé le pays, l'armée contrôlant l'est et le nord du Soudan et les FSR dominant la quasi-totalité de la région occidentale du Darfour et des pans du sud du pays. Ces dernières semaines, l'armée a mené une offensive dans le centre du Soudan, reprenant des villes clés et une grande partie de la capitale Khartoum. L'ONU a par ailleurs dénoncé ce jeudi les conditions inhumaines et graves formes de torture dans les prisons de Khartoum et sa région tenue par les forces armées soudanaises ou les forces de soutien rapide.
En RDC, l'ancien président Joseph Kabila a initié des négociations avec des opposants quant au futur politique du pays alors que les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, continuent de gagner des territoires dans l'est du pays. D'après l'agence Reuters, les négociations qui incluent également des membres de la société civile représentent une nouvelle menace potentielle pour l'actuel président congolais, Félix Tshisekedi, critiqué pour sa gestion de l'avancée sans précédent des rebelles du M23. Félix Tshisekedi et Joseph Kabila ont un temps conclu un accord pour se partager le pouvoir après l'élection présidentielle de 2018, avant que le premier ne prenne de l'influence sur le second. Les États-Unis ont quitté le partenariat pour une transition énergétique juste avec l'Afrique du Sud, un accord international visant à financer la sortie du charbon de la première économie du continent africain a annoncé ce jeudi Pretoria. Les précisions de John Lydon.
Premier du genre, avant d'être décliné avec l'Indonésie, le Vietnam puis le Sénégal, cet accord a été noué lors de la COP26 à Glasgow en 2021 avec l'Union européenne, le Royaume-Uni, mais aussi la France et l'Allemagne à titre individuel, ainsi donc que les États-Unis. Le retrait américain réduit les engagements internationaux actuels en faveur de l'Afrique du Sud de 13,8 milliards de dollars à 12,8 milliards de dollars, selon le même communiqué. Ce milliard, promis par Washington lors de la conclusion de l'accord, était largement constitué d'investissements commerciaux potentiels, est-il précisé. Aucun prêt préférentiel n'a été proposé par les États-Unis à l'Afrique du Sud dans le cadre du partenariat pour une transition énergétique juste, a su Pretoria. L'Afrique du Sud, qui figure parmi les 12 plus gros émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre, 80% de son électricité du charbon, un pilier de son économie avec environ 90 000 emplois.
Le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, a nommé mercredi soir 20 sénateurs, complétant la liste des sénateurs requis pour la mise en œuvre de la nouvelle constitution, indique un décret lu à la télévision d'État. Cette nomination complète les 41 sénateurs déjà élus le 15 février et marque la dernière étape dans la mise en œuvre de la nouvelle constitution adoptée en avril 2024 qui abolit l'élection du chef de l'État au suffrage universel et institue un régime parlementaire. La nouvelle constitution du Togo est vivement critiquée par l'opposition et la société civile qui y voit un moyen pour l'actuel chef de l'État, Faure Gnassingbé, de se maintenir indéfiniment au pouvoir. L'armée béninoise a reçu ce jeudi un avion militaire de surveillance donné par l'Union européenne pour renforcer la lutte anti-djihadiste dans le nord du pays lors d'une cérémonie à la base aérienne de Cotonou. Dans le nord du Bénin, les attaques contre l'armée se sont intensifiées ces derniers mois. Et puis, en Ouganda, 3 nouveaux cas d'Ebola ont été recensés, portant le total à à 12 depuis la fin janvier. L'épidémie, qui a déjà fait 2 morts, touche 5 districts et 69 contacts sont actuellement sous surveillance. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nani Talani.
Une fuite de gaz est en cours de réparation sur le site de Grand Tortue Ameyim, situé au large du Sénégal et de la Mauritanie, sans risque pour les employés, a annoncé mercredi l'opérateur britannique BP, 2 mois après le début de l'exploitation. La fuite, détectée le 19 février, concerne un puits avec des bulles de gaz sous-marines à faible débit. Le projet GTA, lancé il y a 2 mois, a une production annuelle d'environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié. L'ONG Human Rights Watch accuse le gouvernement zambien d'autoriser une extraction de plomb à Kabwe causant un empoisonnement des enfants. Le rapport pointe les activités des entreprises sud-africaines, chinoises et zambiennes dans cette région, l'une des plus polluées au monde. Malgré des risques sanitaires énormes, des mineurs artisanaux ont été autorisés à travailler dans des concessions abandonnées avec Zalco, accusé d'acheter du zinc extrait par ces mineurs. Pour terminer, les prix du pétrole ont légèrement augmenté, bien que le Brent reste sous les 70 dollars, impacté par les tensions commerciales entre les États-Unis, le Canada, le Mexique et la Chine, ainsi que les projets de l'OPEP d'augmenter la production.
Maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
La FIFA promet 1 milliard de dollars aux 32 équipes qualifiées pour le Mondial des clubs.
Oui, c'est ce qu'a annoncé la Fédération internationale de football pour les clubs qui vont disputer cette compétition prévue du 14 juillet au 13 juillet ici aux États-Unis. Aucune précision n'a été apportée pour l'instant au sujet de la répartition exacte de cette manne entre les 32 clubs en lice. En plus du milliard promis aux équipes qualifiées, un mécanisme de solidarité sera aussi mis en place pour reverser le reste des recettes de la compétition, estimé à 2 milliards de dollars par la FIFA aux autres clubs de la planète. La Coupe du Monde des clubs ne sera pas seulement le summum du football interclub, mais aussi une démonstration éclatante de solidarité qui profitera aux clubs dans leur ensemble à l'échelle qu'aucune autre compétition n'a jamais connue. La FIFA ne conservera pas un seul dollar, a commenté le président de l'instance, Gianni Infantino, qui a aussi officialisé l'organisation d'un tournoi similaire pour les femmes en 2028. Le champion d'Afrique en titre Al Ahly d'Égypte, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, l'Espérance de Tunis et les Marocains du Wydad de Casablanca vont représenter l'Afrique à ce mondial des clubs.
Les États-Unis veulent organiser la Coupe du monde féminine en 2031.
US Soccer, en partenariat avec la CONCACAF et ses membres, va mener à bien le processus de candidature à l'organisation de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2031. C'est ce qu'a écrit la Fédération américaine de football. Les États-Unis et le Mexique avaient initialement prévu de se porter candidats pour l'édition 2027 avant de retirer leur candidature l'année dernière pour se concentrer sur 2031. La FIFA a décidé de réduire à 2 le nombre de confédérations pouvant postuler pour 2031, à savoir la CONCACAF, Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes et la CAF, qui représente donc le continent africain. L'Afrique du Sud et le Maroc sont candidats pour 2031. Après l'Australie en 2023, c'est le Brésil qui organisera le Mondial 2027. Le vote pour choisir l'organisateur de l'édition féminine 2031 aura lieu lors du 76e congrès de la FIFA, avant la Coupe du Monde 2026, a annoncé l'instance.
Toujours ici aux États-Unis, mais cette fois-ci en basketball, Cleveland se qualifie pour les playoffs de la NBA.
Les Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell, 26 points, ont été mis en difficulté par le Miami Heat de Bam Adebayo, 34 points et 12 rebonds. Mais comme souvent cette saison, ils sont sortis vainqueurs 112 à 107 pour un 12e succès de rang. Confortable leader à l'Est, Cleveland est la première équipe à s'assurer une place en playoff cette saison, un mois et demi avant le début des phases finales. Leader à l'Ouest, le Thunder d'Oklahoma City devrait bientôt imiter les Cavs. Il s'est rapproché d'une place en playoff après avoir battu les Grizzlies de Memphis 120-103 grâce à une nouvelle performance de Chai Gilgeous-Alexander, 41 points. Les deux artilleurs des Boston Celtics, Derek White et Peyton Pritchard, ont réussi une soirée unique en inscrivant respectivement 41 points et 43 points lors du succès de Boston contre Portland, 128-118.
Page de sport VOA Afrique, signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le mois sacré du Ramadan est différent cette année pour les musulmans de Bukavu, ville conquise à la mi-février par le groupe armé M23. Les prières se font à domicile et les ruptures du jeûne moins festives. Je vous propose un tour dans la région. Dans la localité de Bukavu, les musulmans représentent environ 15 000 familles dans cette cité d'un million d'habitants et quelques 5% de la population de la province, dont la ville est le chef-lieu. À la mosquée, les fidèles sont désorientés. Cheikh Moussa Awam, imam de la mosquée de Niawera, un quartier du centre-ville de Bukavu, se désole d'une perte de repère.
C'est le premier ramadan qu'on vit à Bukavu dans une situation de détresse et un climat de guerre. Les musulmans arrivent partagés entre la joie et la douleur et nous prions quand même à midi et à 15 heures. Ensuite, nous rentrons à la maison.
La guerre à Bukavu a perturbé le programme de prière en raison de l'insécurité ambiante. Les combats dans et autour de la localité ont obligé les responsables des mosquées de Bukavu à enjoindre les fidèles ne vivant pas dans les proches environs à rester chez eux pour les prières d'après la tombée du jour, notamment les tarawis, prières nocturnes propres au Ramadan. Junior Saleh est le secrétaire exécutif de la mosquée de Niawera.
Manque d'engouement dans notre mosquée, dans cette prière ici des 12 heures, c'est dit à... au manque de la sécurité dans notre ville. Tel qu'on est en train de le constater ces derniers temps dans la ville, il y a vraiment l'insécurité et beaucoup de musulmans se disent rester chez soi, prier cette prière là-bas chez soi. Donc c'est un peu compliqué par rapport à d'autres mois du Ramadan.
À l'heure de la rupture du jeûne et de la tombée de la nuit, se promener dans la ville est compliqué, toujours à cause de l'insécurité. L'iftar, le repas de rupture du jeûne, pris après le coucher du soleil, se fait en comité plus restreint que d'habitude, explique Saleh Rajabou, représentant de la communauté islamique du Sud Kivu.
C'est donc, n'est-ce pas, d'habitude. Ici, il faudrait qu'il y ait foule de musulmans qui sont en train de venir ici pour la rupture de carême. Mais malheureusement, aujourd'hui, comme nous sommes... dans la situation actuelle, il n'y a pas de musulmans qui viennent faire les rites.
Certains habitants ont eu le temps de faire des provisions à la maison avant la prise de la ville, mais d'autres sont en train de souffrir parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire de stock de nourriture. Pour de nombreux fidèles, le repas sera modeste. Les banques sont fermées depuis la prise de Bukavu par le M23 et les habitants n'ont plus accès aux liquidités, rendant l'approvisionnement difficile. Au Rwanda, l'intelligence artificielle révolutionne l'accès aux soins de santé grâce à Bebil Healthcare, un service numérique alimenté par un chatbot. Plus de 2 millions de Rwandais bénéficient à distance d'un diagnostic des problèmes de santé, de conseils médicaux et de prescription des médicaments, allégeant ainsi la pression sur les médecins et les centres de santé surchargés. Davantage avec Nani Talani.
Bebil Healthcare est un système basé sur un chatbot qui pose des questions médicales pour interpréter les symptômes d'un patient. Les utilisateurs de smartphones peuvent obtenir des conseils médicaux en entrant leurs symptômes dans une application mobile. L'initiative est une aubaine pour les zones rurales. Patrick Singa, directeur médical de Bebil Healthcare.
Entre 80 et 90% de nos clients nous appellent des zones rurales et non des villes. Et je pense que la raison en est que dans les villes, les gens ont un certain accès aux soins de santé. Ce produit est le plus important pour les personnes qui n'y ont pas accès et qui vivent dans les zones rurales. Ce sont des gens qui, pour voir un médecin, doivent voyager peut-être toute la journée ou quelques heures pour se rendre à l'hôpital.
Le logiciel de l'entreprise est censé être si avancé qu'il a démontré sa capacité à fournir des conseils en matière de soins de santé comparables à ceux des cliniciens en exercice. Mais certains contestent ces affirmations, estimant que si la technologie a ses mérites, elle ne pourra jamais fournir le même niveau de soins qu'un être humain. Patrick Singa.
We still need doctors.
Nous avons toujours besoin de médecins, mais l'intelligence artificielle telle que nous la concevons n'est qu'un outil que nous mettons entre les mains des médecins pour leur donner les moyens d'agir. Voilà comment nous voyons les choses. Nous ne cherchons pas à remplacer les médecins, mais à les renforcer, à accroître leur capacité et à améliorer ce qu'ils font.
Ceux qui n'ont pas accès à Internet appellent le centre de santé de la société à Kigali. Celui-ci réalise plus de 800 consultations par jour. Aimé Nduimana, agent de santé de Babil.
Ici à Babil Health, il y a des infirmières de triage. Ce sont elles qui ont le premier contact avec les patients pour voir si leur état de santé correspond à ce que les médecins de Babil Health peuvent traiter. Lorsqu'elles trient les patients, elles l'inscrivent sur la liste pour qu'il soit vu et appelé par un médecin de Babil Health.
Les utilisateurs de Babil peuvent recevoir des ordonnances directement sur leur appareil mobile et accéder à leur dossier médical et à leur historique de santé. Nadine Munezero, utilisatrice de Babil Health.
Un avantage à consulter Babil. Vous ne payez pas tous les frais parce que vous utilisez les téléphones pour vous faire soigner. Et ensuite, vous ne perdez pas des heures dans une file d'attente comme ces patients. Vous venez chercher les médicaments et vous retournez à vos affaires. C'est vraiment un gros avantage et une méthode intelligente.
La consultation coûte 200 francs rwandais grâce à des subventions de la Fondation Bill & Melinda Gates et à un partenariat entre Babil et le gouvernement rwandais.
Les bronzes du Bénin seront désormais sous la responsabilité du gouvernement nigérian avec l'assentiment du souverain royal de l'État du Bénin qui a été nommé gardien de ces objets précieux il y a près de 2 ans. Le point avec Ginny Niwa.
Le Nigeria tente de récupérer des milliers de sculptures et de moulages en bronze complexe qui ont été pillés par des soldats de l'Empire britannique au royaume du Bénin. Situé dans ce qui est aujourd'hui le sud du Nigeria, en 1897. En mars 2023, le président de l'époque, Muhammadu Buhari, a signé un décret déclarant que l'Oba, ou roi du royaume historique du Bénin, était le propriétaire légitime de tous les bronzes du Bénin restitués et qu'il était responsable de la gestion de tous les lieux où les objets d'art sont conservés.
The return of these objects is not just...
Le retour de ces objets ne consiste pas seulement à les exposer dans les musées ou à en prendre soin. Il s'agit de la dignité de notre peuple et de la réparation de l'injustice de 1897. Cela signifie que même si nous n'avions pas un seul musée, nous serions toujours en droit d'exiger la restitution de nos objets.
Le directeur a déclaré que l'Oba ne disposait pas des infrastructures nécessaires pour prendre soin des bronzes.
Le NCMM, en tant qu'agence légitime mandatée par le gouvernement pour administrer les antiquités, est donc le partenaire logique et c'est là qu'intervient l'accord de gestion entre l'Oba et le NCMM. L'Oba nous a donné sa bénédiction pour que le NCMM ait les droits légitimes d'exposer, de conserver et de poursuivre le rapatriement de ces objets, de sorte qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il existe également un projet de musée royal du Bénin dont l'Oba sera le mécène et où les objets les plus exquis seront désormais exposés.
And to pursue repatriation of these objects. So there's no ambiguity.
Les accords de restitution d'une centaine d'objets avec le musée d'archéologie et d'anthropologie de l'Université de Cambridge se poursuivent.
Il y a plus d'objets d'art du Bénin aux Pays-Bas, pas dans leurs musées, mais peut-être dans des collections privées et autres. Je pense donc qu'il s'agit d'une situation similaire à celle qui prévaut actuellement à Cambridge. Et pendant que nous étions aux Pays-Bas, nous étions toujours en pourparlers avec eux. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'est un processus, mais je crois que rien n'a bloqué ce processus. Ce n'est plus qu'une question de temps jusqu'à ce que nous soyons en mesure de conclure.
Les bronzes volés font partie des objets les plus beaux et les plus importants du patrimoine africain, dont une bonne partie se trouve encore en Europe.
Dans son discours devant le Congrès, le président américain Donald Trump a exposé sa vision des principaux problèmes auxquels le pays est confronté. La correspondante de la VOA au Congrès, Catherine Gibson, s'est entretenue avec des législateurs sur les projets de Trump en matière d'économie, d'immigration et de politique étrangère des États-Unis. Son reportage est repris par Yacouba Ouedraogo.
Lors de son premier discours devant le Congrès au cours de son second mandat, le président Donald Trump a présenté aux législateurs américains un projet pour les années à venir. Les législateurs républicains ont salué cette vision. Monica de la Cruz, élue républicaine.
Il va continuer à sécuriser la frontière. Il va rendre l'Amérique à nouveau prospère et sûre et nous rendre le rêve américain que nous avons perdu sous l'administration Biden.
Duc Lamalfa, élu républicain.
L'heure de se battre est arrivée. Mais il s'agit vraiment de se battre pour l'Amérique parce que l'optimisme qu'il apporte et la politique qu'il expose sont tout simplement logiques.
Certains législateurs ont déclaré que Trump n'avait pas répondu aux préoccupations économiques des Américains. Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate au Sénat.
La seule chose que Donald Trump n'a pas mentionnée est un plan réel et sérieux pour réduire les coûts, la première chose que les Américains voulaient entendre. Au lieu de cela, Donald Trump a réitéré son projet de faire augmenter les prix en déclenchant une guerre commerciale avec le Canada et le Mexique.
Un républicain de la Chambre des représentants a déclaré à la VOA que les droits de douane rétabliraient la puissance économique de l'Amérique. Mike Collins, député républicain.
Vous apporterez l'ingéniosité américaine, vous ramènerez ces entreprises chez nous et vous ferez en sorte que les produits soient moins chers parce que tout sera ici aux États-Unis.
Les républicains ont aussi déclaré à la VOA que leurs électeurs souhaitaient que le Congrès renouvelle les réductions d'impôts de 2017. De nouveau, Monica de la Cruz, élue républicaine.
Ils s'inquiètent de la disparition des réductions d'impôts accordées par Trump, ce qui affectera non seulement les propriétaires de petites entreprises, qui sont en grande partie hispaniques dans ma circonscription, mais aussi les familles américaines moyennes. Leurs impôts vont augmenter de plus de 1 200 $, ce qui représente 6 semaines de course à l'épicerie pour une famille américaine moyenne.
Hakeem Jeffries, chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants, a critiqué les réductions budgétaires et les baisses d'impôts.
Les républicains n'essayent pas de rassembler le pays, ils nous divisent. Les républicains n'essayent pas de faire avancer l'Amérique, ils veulent revenir en arrière.
Les législateurs américains suivent aussi de près l'évolution des relations entre les États-Unis et l'Ukraine. Les républicains ont déclaré qu'une lettre du président ukrainien Volodymyr Zelensky proposant de rouvrir les négociations avec les États-Unis était le résultat de la position ferme de Trump. Ryan Zinke, député républicain.
De toute évidence, la lettre, il avait repensé et avait dit, vous savez quoi? Peut-être que le président Trump est l'homme le plus important et le plus puissant du monde et que je ne le suis pas. Et peut-être que nous ne pouvons pas gagner une guerre sans les États-Unis.
Mais le démocrate Adam Gray a déclaré à la VOA qu'il était préoccupé par l'état des relations.
Je pense que nous devons soutenir l'Ukraine qui est un allié essentiel. Nous avons pris des engagements envers l'Ukraine que nous devons respecter et je crois qu'il faut honorer la parole de l'Amérique.
L'attention des législateurs américains se porte maintenant sur le financement du gouvernement américain au-delà de la date limite du 14 mars.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Lionel Gaïmard. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Brazzaville sur 101.9 FM, 99 FM Abidjan, à Lomé 93.5 FM, 101.7 FM Kankuzo Burundi et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur